Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. À la prière de l'Angélus, récitée dimanche depuis la fenêtre du palais apostolique, le Saint-Père a offert une méditation sur le risque d'une religiosité des apparences. Nous en saurons plus dans quelques instants avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique et l'actualité sociopolitique sur le continent. À tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niemier.
Devant une place Saint-Pierre remplie de fidèles, le Saint-Père a récité dimanche sa traditionnelle prière de l'Angélus. Revenons sur l'évangile du jour, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il a offert une méditation sur le risque d'une religiosité des apparences. Les précisions de Marine Onrio.
Ma perché Gesù e i suoi discepoli trascurano questa tradizione?
Mais pourquoi Jésus ne prête-t-il pas attention aux bonnes habitudes rituelles, s'est questionné François, comme un simple lavage avant de prendre la nourriture? Eh bien parce qu'il est important pour lui de ramener la foi au centre et pour éviter un risque qui vaut pour ses scribes comme pour nous, le risque d'observer les formalités extérieures en mettant au second plan le cœur de la foi. Le pape François est ainsi revenu sur un écueil à éviter, la religiosité des apparences. Avant d'expliquer ce phénomène, paraître bon à l'extérieur tout en négligeant de purifier le cœur. Il y a toujours la tentation de contenter Dieu par une dévotion extérieure, mais Jésus ne se satisfait pas de cette adoration. Il ne veut pas de choses extérieures, il veut une foi qui atteint le cœur.
Non c'è nulla fuera de l'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Invece è dal di dentro del cuore che nascono le cose cattive.
Nous pensons souvent que le mal vient principalement de l'extérieur, a continué François, que le mal vient du comportement des autres, de ceux qui pensent du mal de nous, de la société. Nous passons alors notre temps à distribuer des blâmes, mais c'est une perte de temps, a assuré le Saint-Père. On ne peut pas vraiment être religieux en se plaignant. Au contraire, il faut savoir s'accuser soi-même. C'est le début du cheminement de foi, a-t-il expliqué.
C'est une sagesse, imparare a accusare se stesso.
En conclusion, François invite chacun à demander à Dieu de purifier les cœurs, car il existe un moyen infaillible de vaincre le mal, commencer par le vaincre en soi.
Farà bene, a me fa bene quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Après la récitation de la prière mariale, le pape François a lancé un vibrant appel à prier pour l'Afghanistan, pays en plein chaos après la prise de pouvoir des talibans et endeuillé par les attentats de l'aéroport de Kaboul. Jean-Charles Lapuzzolu.
Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan.
Je suis avec une grande préoccupation la situation en Afghanistan et je participe aux souffrances de ceux qui pleurent pour les personnes qui ont perdu la vie dans les attaques suicides de jeudi dernier et de ceux qui cherchent une aide et une protection. Je confie les défunts à la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Je remercie ceux qui s'activent pour aider cette population éprouvée, spécialement les femmes et les enfants. Je demande à tous de continuer de porter assistance aux nécessiteux et à prier afin que le dialogue et la solidarité aboutissent à l'établissement d'une cohabitation pacifique et fraternelle, offrant un espoir pour l'avenir du pays. Dans ces moments historiques comme celui-ci, nous ne pouvons pas rester indifférents. L'histoire de l'Église nous l'enseigne. En tant que chrétien, cette situation nous concerne et pour cela, j'adresse un appel à tous à intensifier la prière et à pratiquer le jeûne. C'est le moment de le faire. Je parle sérieusement. Intensifier la prière et pratiquer le jeûne en demandant au Seigneur miséricorde et pardon.
Rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Ebelemi
Commençons cette rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique par le message de condoléances des évêques du Burkina Faso adressé au peuple burkinabé après les pertes en vie humaine engendrées par l'attaque survenue le 18 août dernier dans le diocèse de Dori. Des précisions nous ont été données par notre correspondant local.
Dans un message du 20 août 2021 signé du président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, la dite conférence épiscopale a présenté ses condoléances aux familles éplorées et au peuple burkinabé pour les pertes en vie humaine engendrées par l'attaque survenue le 18 août 2021 sur l'axe Arbina-Gorgagui, situé dans le diocèse de Dori. Le message invite tous les fidèles catholiques à intensifier la prière pour que règne nouveau la paix au Burkina Faso. Pour la mise en œuvre concrète de cette invitation, le président de la conférence épiscopale laisse à chaque évêque diocésain l'initiative d'organiser ses prières en faveur des victimes de cette attaque et de celle du terrorisme et pour la paix au Burkina Faso. Dans ce sens, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, qui déjà la veille avait adressé un message similaire aux victimes de cette attaque, disposait pour son archidiocèse ceci. Chaque jour, prioritairement, célébrons l'Eucharistie et concluons par un pater, un Ave Maria, par la prière pour le Burkina Faso ou la prière à Saint-Joseph et un gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La prière du rosaire et les neuvaines sont à encourager. Jusqu'à la fin du mois de septembre 2021 et durant toute l'année pendant les retraites et récollections organisées, nous invitons les participants à consacrer une journée de jeûne et d'abstinence pour la paix. Nous invitons au jeûne et à l'abstinence, notamment d'alcool et de viande tous les vendredis.
En République démocratique du Congo, notre correspondant local nous a rendu compte de la clôture du colloque pour les 35 ans du mouvement des mamans catholiques.
L'archevêque de Kinshasa promulguera bientôt des directives pour le mouvement d'action pastorale des mamans catholiques. Le cardinal Fridolin Ambongo attend de recevoir les conclusions du colloque tenu la semaine dernière à la paroisse Saint-Joseph de Kinshasa pour évaluer les 35 ans du mouvement fondé en 1986 par feu le cardinal Joseph Albert Malula dans le but de promouvoir la dignité de la femme. Le cardinal Fridolin Ambongo a présidé la messe de clôture du colloque le samedi 21 août dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'archevêque de Kinshasa a notamment remercié et félicité les mamans catholiques pour la visibilité de leur idée. Identité. À travers tout le pays et aux quatre coins du monde, partout Fridolin Ambongo a reconnu le pagne et le foulard portés par des mamans catholiques. Ce signe extérieur important est une leçon aux hommes catholiques et notamment à des prêtres qui ne portent plus ni soutane ni croisette. L'archevêque de Kinshasa a rappelé aux mamans catholiques l'exigence d'être femme, maman qui porte la vie et catholique, membre effectif et actif de l'Église.
Ne vous laissez pas influencer par de nombreux courants de pensée qui estiment que vous pouvez être femme ou mère, mais parfois contre les valeurs enseignées et préconisées par l'Église catholique.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, l'évêque de Bondoukou, Mgr Bruno Essoyedo, a procédé dimanche 22 août dernier à l'ouverture des festivités du 25e anniversaire à direction de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Niangon, Cité Verte. Retour sur l'ouverture de cet anniversaire.
L'événement a rassemblé toutes les forces vives pour rendre grâce à Dieu pour cette longue et fructueuse marche ecclésiale. Pour l'occasion, c'est Mgr Bruno Essoyedo, l'ancien curé de cette paroisse jubilée, qui a présidé cette messe inaugurale. Dans son homélie, l'évêque de Bondoukou est revenu sur la nécessité et les implications de cette action de grâce. Il a exhorté cette communauté paroissiale, en fait, à vivre cet événement comme un nouveau départ avec le Christ.
C'est un moment important où les fidèles chrétiens sont invités à entrer dans l'esprit et la lettre du jubilé, à se préparer spirituellement, se confesser, se pardonner mutuellement pour un nouveau départ. Et quand on aura pris ces conditions, je pense que Dieu qui a institué cela nous accordera beaucoup de grâce.
Le curé en charge In Solidum, le père François Mimel, quant à lui, a appelé ses fidèles à rendre plus manifeste l'union qui existe entre eux, afin de faire toujours de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Niangon Cité Verte cette référence reconnue dans tout le diocèse.
Et il faut se mettre ensemble, et le thème du jubilé en dit long, dans la grâce du jubilé, avec Jésus-Christ, agissons ensemble pour une église paroissiale dynamique. et autonome.
Journée d'évangélisation, pèlerinage, messe en mémoire de tous les fidèles du fond de la paroisse, ce sont les principales activités que meubleront les 25 ans de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Niangon Cité Verte pour se refermer le dimanche 9 janvier 2022. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Tchad, un atelier regroupant les délégués diocésains des écoles catholiques a eu lieu du 19 au 21 août dernier au lycée du Sacré-Cœur dans l'archidiocèse de N'Djamena. Cette initiative de la Direction nationale de l'enseignement catholique au Tchad a pour objectif de mettre sur pied une structure afin de mieux gérer les ressources financières pour le bon fonctionnement de ces écoles. Notre correspondant local nous a donné plus de précisions dans ce reportage.
Trois jours durant, les délégués des curés des paroisses, des parents d'élèves et des directions diocésaines de l'enseignement catholique au Tchad ont échangé autour des thématiques pouvant réguler d'une part les collaborations comme partenaires dans l'éducation des enfants et d'autre part dans la gestion des ressources financières pour le bon fonctionnement des écoles catholiques. Les thèmes comme le rôle des associations des parents d'élèves et l'éthique de l'enseignement ont permis de toucher du doigt la responsabilité de chaque acteur dans l'éducation. Chacun est interpellé en ce qui le concerne pour redonner à l'enseignement catholique ses lettres de noblesse. Il ressort de cette assise la nécessité d'asseoir une coordination nationale des associations des parents d'élèves. Le directeur national de l'enseignement catholique, Nodugoto Nanimian Martial, s'est tout d'abord réjoui de la tenue de cette assise avant de rappeler que les associations des parents d'élèves sont des partenaires incontournables dans le cadre du dynamisme des écoles. L'abbé Xavier Kouldjim, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, a quant à lui encouragé les participants à mettre en pratique les résolutions issues de cette session afin de former non seulement l'homme avec une tête bien faite, mais aussi et surtout l'homme et l'homme intégral. Notons que cette initiative a été appréciée à juste titre par les participants. Severin Dingatolum pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les rebelles tigriens ont accusé dimanche l'Union africaine, UA, de partialité à la suite de la désignation par l'Organisation panafricaine d'un médiateur dans le conflit qui déchire le nord de l'Éthiopie depuis près d'un an. Il serait naïf de penser que cette mission puisse marcher, a affirmé le porte-parole des rebelles, détaché au Reda, trois jours après la nomination de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo comme représentant de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique, avec pour mission promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le dialogue politique. Résoudre une crise requiert au moins la reconnaissance de l'existence, sinon de l'importance d'un problème, écrit le porte-parole des rebelles tigriens. Nous avons du mal à comprendre comment on peut attendre un rôle constructif de la part d'une organisation qui a donné tout son sens au mot partialité, conclut-il. Au moins 6 militaires d'opposition et un responsable religieux ont été arrêtés au Soudan du Sud par les forces de sécurité qui tentent de désamorcer une journée de protestation prévue lundi, a annoncé samedi une association de la société civile. Les arrestations ont été démenties par les autorités. 19 civils ont été tués vendredi par des rebelles du groupe armé d'origine ougandaise, Force démocratique alliée, d'après un nouveau bilan de l'attaque d'un village de la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué samedi M. Kakule Kalunga, chef du groupement local. Environ 350 migrants ont en vain tenté très tôt samedi matin de franchir la clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Mélina, a annoncé un porte-parole du gouvernement espagnol. Les gardes frontières espagnols ont alerté leurs homologues marocains qu'un groupe de 350 Africains subsahariens essayait d'escalader la barrière près du poste frontière de Barrio Chino.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La marine sénégalaise a lancé des recherches après le chavirement près de Saint-Louis dans le nord du Sénégal d'une embarcation transportant une soixantaine de migrants, ont indiqué samedi des services et d'un responsable administratif. Le naufrage a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé la direction de l'information et des recherches publiques des armées vendredi soir. La suite de notre programme, c'est avec le père jésuite Martin Bahati qui continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons notre lecture méditative du quatrième chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Nous abordons le deuxième petit point dans lequel le pontife parle de l'horizon universel. Il écrit à ce propos « Le narcissisme, obsédé par le particularisme local, ne sont pas un amour saint de son peuple et de sa culture. Il cache un esprit étriqué qui, à cause d'une certaine insécurité et par peur de l'autre, préfère créer des remparts pour se protéger. Or, observe le pape, il n'est pas possible d'être local de manière saine sans une ouverture sincère et avenante à l'universel, sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, sans se laisser enrichir par d'autres cultures ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples. L'encyclique continue en montrant que ce particularisme local se recroqueville d'une manière obsessive sur quelques idées, coutumes et sécurités, incapables d'admiration devant la multitude de possibilités et de beautés que le monde tout entier offre. Car au fond, affirme le document, toute culture saine est ouverte et accueillante par nature, de telle sorte qu'une culture sans valeur universelle n'est pas une vraie culture. Le pape montre que moins une personne a une ouverture d'esprit et de cœur, moins elle pourra interpréter la réalité environnante dans laquelle elle se trouve. Sans relation et sans contraste avec celui qui est différent, il est difficile de se comprendre de façon claire et complète soi-même, ainsi que son propre pays. Puisque les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine. Une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité, affirme l'encyclique, car en s'enrichissant avec des éléments venus d'ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement, mais intègre les nouveautés à sa façon. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous, parce que la culture d'où proviennent ses apports finit par être alimenté en retour. D'après le pape, le monde croît et se remplit d'une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives qui se créent entre des cultures ouvertes en dehors de toute imposition culturelle. L'encyclique Fratelli Tutti stipule que pour stimuler une saine relation entre l'amour de la patrie et l'intégration cordiale dans l'humanité, vu dans sa totalité, il est bon de rappeler que la communauté mondiale n'est pas le résultat de la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux. Chaque groupe humain s'intègre dans ce réseau de communion universelle qui trouve là sa beauté. De ce fait, chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait qu'elle appartient à une famille plus grande sans laquelle il est impossible de se comprendre pleinement. Le pape conclut ce petit point en ces termes. Cette approche suppose en définitive qu'on accepte sans réserve qu'aucun peuple, tout comme aucune culture ou personne ne peut tout obtenir de lui-même. Les autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d'une vie épanouie. La conscience d'avoir des limites ou de n'être pas parfait, loin de constituer une menace, devient l'élément clé pour rêver et élaborer un projet commun. Car l'homme est tout autant l'être frontière qui n'a pas de frontières.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-Josée Mondo Boisboileau pour le magazine du jour consacré à la femme.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société concerne le sport avec l'Australienne Liz Mills, la première femme coach de l'histoire du FIBA Afrobasket. Pour la première fois en 28 ans, le Kenya participe à l'Afrobasket, un retour dans le tournoi phare du basket africain qu'il doit à l'Australienne Liz Mills, pionnière ambitieuse pour ses joueurs et pour les femmes entraîneuses. À des milliers de kilomètres de Sydney, sa ville natale, Liz Mills est entrée mercredi à Kigali au Rwanda définitivement dans l'histoire lorsque son équipe a affronté la Côte d'Ivoire, devenant ainsi la première femme à avoir dirigé une équipe masculine à l'Afrobasket, le championnat d'Afrique des Nations. Je suis très privilégiée et reconnaissante d'avoir eu cette opportunité en Afrique. Je sais que je n'aurais pas pu l'avoir ailleurs, explique Liz Mills. Son aventure africaine a débuté en Zambie en 2011 comme bénévole lors d'une mission humanitaire. Elle demande à entraîner une équipe pour la saison 2011-2012 sans jamais avoir dirigé d'hommes jusque-là. Coup d'essai, coup de maître, son équipe décroche le titre national. J'étais un peu une rareté, ajoute-t-elle. Je me sentais parfois mise à l'écart à cause de mon âge et évidemment de mon sexe. Cela ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, c'est la même chose partout dans le monde pour les femmes qui essaient d'entraîner les hommes. Après avoir été entraîneuse adjointe des équipes masculines de Zambie et du Cameroun, Mills a pris en janvier dernier les commandes de Morant, le surnom des basketteurs kenyans, et elle n'a pas perdu de temps. En 2012, j'avais dit en Zambie que je voulais être la première femme à entraîner à l'Afrobasket, rappelle Mills. Qualifier les Morants, c'est un rêve qui s'est réalisé. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais Mills a réalisé son rêve en février dernier lorsque son équipe a décroché son billet pour l'Afrobasket en battant 74-73 l'Angola, sacrée 11 fois championne d'Afrique. Interrogée sur le secret de son succès en tant qu'entraîneuse, Mills insiste sur sa philosophie de base, à savoir établir de bonnes relations avec ses joueurs. Les joueurs se fichent un peu de ce que vous savez, ils veulent surtout que l'on s'occupe d'eux, non seulement en tant que joueur sur le terrain, mais aussi en tant que personne, résume-t-elle. L'Afrobasket, c'est la première étape d'un long voyage vers la Coupe du Monde, à condition de devenir l'une des meilleures équipes africaines, insiste l'Australienne de 34 ans. Elle espère que son parcours donnera des idées à d'autres fédérations et à d'autres entraîneuses. Signalons toutefois que la Côte d'Ivoire a battu le Kenya 88-70 pour son premier match de poule.
Notre rubrique du jour est consacrée à la revue de la presse catholique africaine. Commençons ce numéro de la revue de presse catholique africaine par la nouvelle rubrique de débat et de formation lancée par la Croix Africa en collaboration avec Prions en l'Église Afrique. Repenser la théologie africaine. Cette rubrique offre une tribune aux penseurs pour une réflexion fructueuse sur l'avenir de l'Église et de la pensée théologique en Afrique. Dans sa publication du samedi 28 août, la Croix Africa a donné la parole à Sœur José Ngalula, religieuse de Saint-André, docteur en théologie de l'Université catholique de Lyon depuis 2000, professeur de théologie dogmatique à l'Université de Mazinode, à l'Université catholique du Congo, qui a proposé une réflexion sur l'écuménisme. La religieuse a notamment indiqué que l'éclatement du christianisme en Afrique remonte à l'Antiquité chrétienne. Des conflits doctrinaux du 5e siècle résultent des actuelles églises coptes orthodoxes, églises orthodoxes d'Éthiopie, églises orthodoxes d'Érythrée, ainsi qu'un patriarcat d'Alexandrie à configuration complexe. Après le 12e siècle, les missionnaires catholiques, orthodoxes, anglicans et protestants ont amené en Afrique un christianisme marqué par les divisions et rivalités confessionnelles générées en Occident, explique la religieuse dans la Croix Africa. De ce fait, la religion chrétienne a constitué un facteur supplémentaire de division dans l'histoire de l'Afrique. Des gens d'une même famille, clan, localité devenaient antagonistes à cause de leur adhésion à telle ou telle église, peut-on lire. Poursuivant, sœur Ngalula indique que l'organisation commune des semaines de prière pour l'unité des chrétiens sont généralement des expériences de fraternisation confessionnelle, mais cependant sans souci de s'investir pour l'unité organique de tous les chrétiens. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec la plupart des milieux pentecôtistes et néo-pentecôtistes d'Afrique. Convaincus que toutes les autres confessions chrétiennes sont dans l'erreur, ils affichent un prosélytisme agressif et refuse généralement de participer aux semaines de prière pour l'unité des chrétiens. Il collabore parfois seulement dans le domaine des œuvres, a encore indiqué la religieuse. La semaine africaine, le bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale de la Conférence épiscopale de la République du Congo, Congo-Brazzaville, a fait mention dans sa publication du vendredi 25 août dernier du forum organisé du 19 au 20 août 2021 à Brazzaville, organisé par le gouvernement congolais et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, sous le thème « Leadership des jeunes et et capture du dividende démographique en Afrique centrale. Prendre leur destin en main est une volonté affirmée par les jeunes au forum, lit-on dans la semaine africaine. Selon le billet hebdomadaire, le forum a accouché d'une déclaration dite de Brazzaville pour la politique en faveur des jeunes. Elle comprend des engagements pour eux-mêmes et un train de recommandations à l'endroit des gouvernants et autres décideurs à tous les niveaux.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et voilà, amis auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme présentée par Françoise Nyamia. Je serai très heureuse de vous retrouver demain à la même heure et sur la même fréquence pour un autre rendez-vous de notre programme sur Radio Vatican. Au revoir.